Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, Denis Knopfler.
Mesdames et messieurs, vous m'entendez? Est-ce que je brandis le micro? Nous avons le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Enrica Culasso Gastaldi, qui est professeure à l'Université de Turin. Madame Culasso est le contraire de ce qu'on appelle un turboprof. C'est une chercheuse et une enseignante très impliquée dans son université. J'en ai fait encore tout récemment l'expérience, et très attachée aussi à sa région, au Piémont, qu'elle étudie comme un à côté, je ne dirais pas un violon d'Ingres, mais c'est un à côté important dans ses recherches, l'étude des, d'un côté du passé du Piémont, le passé antique, ligure, celte, puis romain, passé auquel elle a consacré de nombreux travaux. De même, et par là nous nous rapprochons un peu du monde grec déjà, par l'étude tout à fait originale de ce qu'elle appelle, ce qu'on appelle en italien le collezionismo.
Collezionismo, si, exactement.
Dont on n'a pas l'équivalent en français, bien que ce soit simple, l'étude des collections d'antiques et notamment d'inscriptions grecques, assez nombreuses, étonnamment nombreuses, qui se trouvent à Turin et dans le Piémont, de ces inscriptions qui sont grecques, certes, mais un peu piémontaises.
Pour droit de résidence,
voilà, elles sont piémontaises. Elles sont résidentes depuis souvent des siècles dans cette capitale et ailleurs. Mais tout de même, je crois pouvoir dire que le cœur de ses intérêts scientifiques, c'est bien le monde grec, très particulièrement Athènes, cité et histoire auxquelles elle a consacré de nombreux travaux. D'abord des travaux peut-être au début plus littéraires, avec une orientation historique néanmoins, sur les tragiques grecques et l'Occident, sur Thémistocle, figure majeure, puis de plus en plus, sans doute, l'épigraphie attique, des travaux sur les décrets honorifiques du IVe siècle, les proxénies, un livre, de nombreux articles sur ces documents, et aussi, et peut-être surtout, c'est même la raison de sa présence ici, l'étude des colonies, des clérouquies, très particulièrement de cette île tout à fait originale, elle va en parler, de Lemnos, où elle est très impliquée à travers l'école italienne, la Scuola Italiana, d'Athènes. Je crois que vous avez là le titre de professeur d'épigraphie grecque dans cette vieille institution athénienne. Et elle doit préparer justement, en collaboration avec les archéologues, ses compatriotes, un recueil critique de toutes les inscriptions attiques de l'île de Lemnos. Vous comprenez donc bien la raison pour laquelle nous l'avons invitée. Parler des clérouquies ou de Lemnos sans elle eût été une gageure, et on n'aurait pu qu'ajouter des erreurs, tout simplement en la résumant. Mais vous aurez noté aussi que ces travaux ont été utilisés dans le cours. J'avais cité en particulier une contribution toute récente sur la gymnasiarchie, où elle a donné une synthèse extrêmement bienvenue. Voilà, j'en ai dit assez, je pense. Je la remercie infiniment d'avoir pu accepter l'invitation pour deux volets, un volet d'exposé et un volet de séminaire tout à l'heure. Notre séminaire aura lieu en salle 4. Cela vient de m'être confirmé. Merci beaucoup, Enrica.
Merci. Merci. Merci à tous, messieurs, dames. Je vous remercie pour votre présence ici. Je suis très contente d'être parmi vous. Hein. Et j'espère de vous donner un aperçu sur les clairucies, ou bien sur, en particulier après, sur l'île de Lemnos. Merci beaucoup à tous. Donc, l'expression, on va partir. On va attendre, oui, le réchauffage. Voilà, peut-être. Ah, c'est ça. Très bien. Alors, il y a un peu de blé, un peu de blé dans le printemps de l'île de Lemnos, parce que c'est une île très verte qui a donné du blé à Athènes. On le sait, on le sait. L'expression « ta ente uperori acte mata », et c'est le titre de cette communication, dans le témoignage de Xénophon, décrit l'expansion capillaire des Athéniens en dehors des frontières de l'Attique au cours du grand impérialisme du Ve siècle. La définition délibérément choisie parmi d'autres possibles souligne la diversité des formes institutionnelles que les possessions établies en dehors de l'Attique pouvaient présenter. Elles ne se laissent pas réduire à des modèles uniques parce que les Athéniens se sont adaptés aux différentes conditions de chaque établissement en secondant chaque fois des fins stratégiques, militaires, commerciaux ou agricoles. Cependant, un grand débat historiographique s'est développé sur ce thème, puisque déjà au Ve siècle, les sources littéraires témoignent des réalités très articulées, impliquées par différentes expressions lexicales comme apoikia, kleroukia, epoikia. Le terme kleroukos vise à souligner explicitement la distribution de terres, le kleros justement, qui est attribué à l'arrivée aux Athéniens. Ce phénomène, c'est-à-dire l'octroi d'une parcelle de terrain, est observable aussi dans la déduction d'une colonie, mais il semble caractériser davantage le statut des kleroukoi, comme si cette pratique décrivait l'essence de la kleroukia et l'implantation des kleroukes était réduite à la répartition des terres. Dans le mot kleroukos est absent, à l'inverse, l'idée de détachement non seulement physique, mais aussi institutionnelle, de la patrie d'origine. Au contraire, les clérouques continuaient à être liés à la ville de départ en conservant leur citoyenneté et en gardant leurs traditions et coutumes, soit dans un domaine culturel et social, soit en particulier du point de vue institutionnel. Ils ne sont donc pas des colons, mais ils sont vraiment athéniens en dehors d'Athènes. Et la kleroukie est véritablement ein vollständiges klein Athènes. C'est une définition du 1891 de Gilbert, ou si vous voulez, et je cite Graham de 1964, an extension of the Athenian state overseas. La kleroukie n'est donc pas, selon une définition récente que je ne partage pas, de Salomon du 1997, ce n'est pas un insediamento informe, senza terra e senza leggi, mal definita appendice di Atene fuori dell'Attica. Mais elle, la kleroukie est plutôt une gémation de l'Attique en dehors de l'Attique, strictement soumise au même code de loi de la cité-mère, avec les mêmes coutumes sociales, civiles et institutionnelles. En outre, la kleroukie peut bien être définie per differentiam. Ce n'est pas une colonie. On ne consulte pas les oracles avant le départ. On ne rend pas des honneurs cultuels à un oikistes parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais la kleroukie aussi élabore des mythes de fondation comme la colonie, car elle a également besoin de se légitimer, car elle est également une initiative de conquête, jamais conduite dans des terres vides d'habitants. Le nombre de sites où il y a une présence d'Athéniens depuis la seconde moitié du XVIe siècle avant et à suivre comprend certainement les cléruquis de Lemnos, Imbros et Chiros. De Lemnos, de Imbros et de Chiros, véritable prolongement de la route vitale qui d'Athènes conduisait les navires vers la mer de Thrace, la mer Noire. L'attention de mon équipe de Turin pour ce thème découle d'une fructueuse collaboration avec l'école archéologique d'Athènes et avec son directeur, le professeur Emanuele Greco, qui a donné un nouvel élan à la longue tradition des fouilles et d'études dirigées par les Italiens sur l'île de Lemnos depuis les années 30 du dernier siècle. Ici, on a une photo, hein, il y a là-bas, là, sur la gauche, il y a M. de la Seta, qui était l'ancien directeur des années 30. Cette occasion a permis d'étudier ce domaine des Athéniens en enrichissant par les sources épigraphiques et archéologiques le peu d'informations fournies par les documents littéraires, dans le but de reconstruire pièce par pièce, pour ainsi dire, du parterre documentaire, l'ensemble politique et humaine d'une cléruquie. Maintenant, je rappellerai brièvement, j'espère, la chronologie des relations, ça c'est, il faut le faire, des relations qui unirent dans une façon stable et solide les trois îles, la patrie d'origine. Ces territoires outre-mer ont partagé en commun le sort de territoire privilégié d'Athènes, bien que sans doute Lemnos a bénéficié d'une plus grande visibilité à cause de sa portée géographique et du prestige de ces deux villes, ces Myrina et Tephesti, on va les connaître mieux. Hein. Les îles au Ve siècle sont des territoires contrôlés par Athènes, tandis que leurs habitants se battent en tant que protagonistes à côté des Athéniens, avec lesquels ils partagent les opérations militaires les plus dangereuses. La propriété athénienne sur les trois îles est reconnue jusqu'à la défaite des Athéniens dans le 404 avant, où tout est perdu. Mais bientôt, dans les négociations de paix de l'année 392, Sparte est disposée à connaître de nouveau la propriété d'Athènes, ainsi que Andocide, dans sa oration sur la paix, peut bien affirmer que les îles maintenant sont à nous, hein, nunde meterasainai. Mais c'est dans le 387-6 que le grand roi de Perse, avec le maximum d'autorité possible, affirme l'autonomie de toutes les cités grecques, à l'exception de Lemnos, Imbros et Chiros, ces îles, comme pour le passé, ως perto Archaion, sont des Athéniens. Cette importante déclaration sous serment par tous est un pont entre le 5e et le 4e siècle et certifie que tout le monde reconnaissait le statut particulier des îles, non seulement pour l'histoire la plus récente, mais en particulier pour un passé qui remontait, comme l'expression « ως perto Archaion » prouve bien, dans la profondeur du 5e siècle. Au cours du 4e siècle, en outre, nombreux documents épigraphiques témoignent la propriété d'Athènes sur les îles, même au milieu des difficultés de la guerre des Alliés et sous les coups répétés de Philippe II, roi de Macédoine, qui investit Lemnos et Imbros aussi et prend des prisonniers parmi les Athéniens qui sont obligés d'y maintenir des troupes aussi en hiver. En 338, malgré la défaite dans la guerre avec la Macédoine, Athènes obtient la confirmation de ses cléruquis, comme on peut le déduire à partir des sources littéraires et épigraphiques de l'âge de Lycurgue. Toutefois, lorsqu'Athènes est dominée par Cassandre, elle reste séparée de ses cléruquis, ou bien séparée de Lemnos, on le sait, qui demeure fidèle à Antigone le Borgne, Monophthalmos. Enfin, une expédition militaire ordonnée par Cassandre est renforcée par les Athéniens des vastes îles, incapables toutefois de soumettre par siège l'un des deux villes de l'île, hein, c'est Myrina surtout, on le sait, qui est à sa cause de sa position naturellement fortifiée et qui est défendue par des murs puissants. Les îles et la métropole se rejoignent seulement en 307 où dans la plénitude de la fête en l'honneur des Antigonides, sauveurs d'Athènes, arrivent les délégations des villes égéennes, y compris Lemnos et Imbros, à offrir des couronnes de félicitations pour le retour de la démocratie et de la liberté. Mais 6 ans après seulement, avec la bataille d'Ipsos en 301, Athènes perdit ses îles qui passent sous le régime autoritaire de Lysimaque pour revenir bientôt, en 281, se rejoindre à la mère patrie, merci à la générosité de Séleucos, gagnant sur Lysimaque. L'histoire du IIIe siècle est mal connue de ce point de vue, surtout après la défaite d'Athènes dans la guerre de Crémonide, bien que certains documents athéniens semblent témoigner d'un lien étroit entre la ville et ses îles. La ville d'Athènes, j'entends. La chronologie de ces inscriptions, toutefois, n'est pas strictement exactement déterminée, mais des considérations d'ordre paléographique pourraient également suggérer une datation au milieu du IIIe siècle, en ouvrant la possibilité qu'un accord avec Antigone Gonata était intervenu en vue de reconnaître la dépendance des établissements égéennes d'Athènes. Mais nous ne savons pas si la propriété athénienne pouvait s'opposer au caractère agressif de la politique étrangère du Philippe V, dont nous connaissons l'intérêt pour le sanctuaire des dieux Kabyre à Lemnos. Certes, Athènes, à cause désormais d'une puissance militaire limitée et d'un choix forcé de neutralité, pouvait seulement demander le retour de son petit, ou mieux, de son très petit empire. Mais le parti a changé. Le Dominus, nouveau et très puissant, est maintenant le Sénat romain. Si le retour des îles n'a pas eu lieu en 196, comme quelques fragments de la tradition polybienne semblent témoigner, il est certain que les Athéniens l'ont demandé à plusieurs reprises en faisant valoir leur titre d'ancienne propriété. Mais c'est seulement à la fin de la troisième guerre macédonienne, c'est en 167-6 avant, que Lemnos retourne aux Athéniens, témoin Polybe. Et avec elle aussi Imbros et Chiros. Hein. Ce n'est pas un hasard si les gens de Myrina remercient la déesse Athéna dans une inscription très bien connue pour avoir assuré le retour des îles qui déjà auparavant était de propriété du peuple d'Athènes. Hein? Déjà auparavant, « Ton proteron hyparcuson neson, toi demoi, toi athénaioi ». La correspondance dans ce texte avec la dictée de la paix du grand roi qui récitait « Os per to archaion » comme pour le passé est frappante. C'est désormais évident que les grandes coordonnées historiques offrent seulement des points de repère à grande maille, mais nous cachent l'information qu'on aimerait savoir sur les institutions des îles, sur la qualité de leur appartenance à Athènes, sur la population résidente et sa culture, sur les activités économiques, les pratiques religieuses, sur l'accès aux terres et sur les rites funéraires. Mais je parlerai maintenant de Lemnos, si vous voulez, qui est un valable paradigme des autres protagonistes, hein, Imbros et Chiros, essayant de souligner les points forts des nouveautés mises au jour par le groupe de travail d'Athènes et de Turin. Tout d'abord, nous pouvons dire que, après les guerres médiques, l'occupation de l'île par Athènes remonte, ça c'est une nouveauté, remonte au deuxième quart du Ve siècle, c'est-à-dire l'âge de Cimon, avec une présence des familles et un caractère de permanence sur le territoire. Ce sont les plus anciennes tombes de Héphestia et de Myrina, les deux villes de l'île, qui nous en offre la preuve matérielle. Vous voyez ici les laits cutoïatiques à figure noire, très bien datés, hein, dans une étude de Sveva Savelli. Vous voyez ici une épine, donc c'est une affaire tout à fait féminine, hein, pour des femmes, hein, de la tombe 44, c'est du deuxième quart du cinquième, toujours Sveva Savelli qui l'a étudié. Et vous voyez ici des chaudrons de bronze, hein, des poignées de chaudrons qui nous datent du deuxième quart du cinquième avec des comparaisons dans le céramique d'Athènes. Et c'est Daniela Marchiandi qui l'a étudié. La documentation pertinente à la facies pré-grecque des Tyrrhéniens disparaît complètement avec la fin du VIe siècle. Comme si un événement traumatisant avaient coupé du nez la relation de cette population avec l'île. Leur céramique et leur choroplastie très particulière sont éteintes. Si quelques Tyrrhéniens survivaient encore sur l'île, ils n'a donné aucun signal de soi, puisque la rupture de la culture matérielle ne laisse aucune place au doute. L'archéologie témoigne l'arrivée des Athéniens qui remplacent les anciens habitants dans les lieux de culte en hellénisant les préexistantes divinités épicoriques. C'est le même avec le culte de la déesse Artemis, hein, Artemis, vous la voyez, avec les dieux Kabyres aussi, un ancien culte à mystère qui avait son siège sur un promontoire panoramique face au site d'Hephestia, et on va le voir. La Cora était habitée dans une, encore Artemis ici, vous le voyez, c'est un or de la seconde moitié du cinquième, et je vous disais que la Cora était habitée dans une façon capillaire dans les territoires orientales, appartenant à la ville de Hephestia. Ici, les éléments de preuve se concentrent en documentant des fermes et des périboles funéraires qui ont été fort bien étudiés par Daniela Marchiandi. Les deux périboles dans la Cora d'Hephestia. Ici, périboloi funéraire et aussi ferme ensemble. Ici, le témoignage des bornes, encore, je procède, les bornes, les oroi, qui rappellent un gage sur des biens fonciers ou immobiliers, se surposent exactement aux données archéologiques, ce qui prouve l'exploitation généralisée des terres avec des pratiques économiques et des initiatives développées de près. La carte archéologique nous indique graphiquement ces données qui sont concentrées dans la partie orientale de l'île. Vous voyez les périboles fouillés, les périboles soupçonnés et en bleu foncé les indications des bornes de gage, hein, oroi. Tandis que dans la partie occidentale de l'île, cependant, nous supposons plutôt l'existence d'une grande propriété foncière. Il suffit de rappeler l'oros retrouvé dans la localité de Condia, je vous l'ai indiqué, datant du IVe siècle avant, qui préserve le seul cas existant sur l'île d'Apotimema Dotal, c'est-à-dire un borne pour garantir le retour des biens d'Oto. La tradition de donner une do nous entraîne dans le monde des riches familles athéniennes, mais dans notre cas, nous pouvons être sûrs d'être en présence d'une des familles les plus riches de l'élite de l'Attique parce que le bien gagé atteint le montant extraordinaire d'un talent et de 1 000 drachmes, c'est-à-dire un total de 8 000 drachmes, vous le voyez, pour lequel il n'existe qu'un autre cas à Athènes, seulement un autre cas en Athènes. Les valeurs moyennes pour cette catégorie de documents ne dépassent pas les 2000 drachmes. Le ors de Condien constitue donc la preuve de l'existence in situ de grands domaines, car la famille du marié fournit un gage constitué par terrain, c'est-à-dire par coria. Les établissements continuent dans les mêmes formes avec un enracinement sur les propriétés des mêmes familles. Dans les monuments funéraires familiaux, en effet, les générations sont clairement identifiées avec une hiérarchie pyramidale parmi les titulaires des sépultures. Les données archéologiques attestent donc une continuité absolue entre le 5e et le 5e et le 4e siècle, de façon qu'on ne peut pas diversifier entre le 4e siècle et les générations précédentes des colons, au moins à partir de la culture matérielle. La population résidente est toujours la même, attique et seulement attique. Elle vit selon les coutumes de l'Attique contemporaine et enterre ses morts après les mêmes traditions. L'association entre les péribos funéraires et les fermes et les bornes de gage prouve que la population est résidentielle. Les mores sont attiques. Les clérouques contrôlent le terrain sur lequel ils conduisent des transactions économique d'hypothèques et de prasis epi lusei, c'est une expression grecque qui signifie une vente sous condition résolutoire de restitution. Tout cela a conduit à reconsidérer le rôle juridique du clérouc et sa relation avec la terre. L'archéologie a montré la vie des colons. Les deux principales villes pour lesquelles l'île a été définie d'Hippolis sont Hephaestia, plus ouverte, Hephaestia, là voilà, et avec quand même une heureuse position géographique, et Myrina, défendue par une forteresse inexpugnable contre laquelle s'était brisée l'expédition envoyée par Cassandre. Voilà une particulière de la ville de Myrina avec les endroits archéologiques et les fouilles. Il y a deux sanctuaires extramuros, l'Artemision. Ça, c'est le lieu de provenance des photos et des dessins. Il y a l'Artemision, ça, il y a la forteresse inexpugnable encore, pardonnez-moi, de Myrina, avec les indications de murs puissants, et je vous indique avec les flèches la localisation, mais aussi vous voyez ici le détail des murs très puissants de la ville de Myrina. Voilà, les voilà. Et ça, ici, il y a une belle vieille photo prise de Frédéric de 1906. Donc, deux sanctuaires, extramuros, que je vous indique maintenant, c'est le Temenos d'Artemis et Myrine. Hein, et le sanctuaire, on a des détails de l'archéologique, du sanctuaire d'Artemis tout près de Myrine. Et vous voyez ici le sanctuaire des dieux Kabir, perché sur un promontoire balayé par le vent face à Hephaestia. Nous connaissons dans tous les deux sanctuaires, la continuité de vie à partir de la Facies tyrrhénienne, ici c'est localisé, a continué avec l'âge classique et hellénistique, et enfin encore romain. Le matériel archéologique a bien illustré les procédés de la koiné estiasis, c'est-à-dire le repas en commun des fidèles, et les rituels nocturnes sur l'exemple des mystères de l'Eusis. L'épigraphie, en outre, a peuplé les grandes coordonnées historiques en les remplissant des visages, des sentiments, des relations, des histoires des clérouques, parfois à un niveau seulement local, mais parfois aussi en liaison avec des réalités extra-insulaires, avec les pays frontaliers, mais surtout avec la patrie d'origine, Athènes. Les Lemniens, géographiquement Lemniens, sont profondément athéniens. Ils conservent au fil du temps la dénomination démotique et les institutions attiques. Mais les sources épigraphiques témoignent, il faut le dire, les formes institutionnelles et politiques de la cléruquie relativement tard, à la fin du 5e, début du 4e, quand Lemnos est véritablement un petit clone d'Athènes. Cette situation continue sans interruption, au passage même du 4e siècle, à l'époque hellénistique. D'un point de vue institutionnel, les deux villes de Myrina et Festia ont chacune leur propre centre de délibération et d'administration. Chaque ville a sa propre ecclésia. Les décrets y sont égaux à ceux de l'Attique. On y trouve les mêmes formules. L'assemblée est présidée par les 9 proèdres, un pour chacune tribu qui n'est pas la Prytanie. Les proèdres, qui sont nommés par Héphaestiens, ont également la tâche de présider l'assemblée des initiés du Cabirion. Les tribus étaient 10, puis ils étaient 12, suivant la fortune des Antigonides à Athènes. C'est le même. La politique honoraire du démos local investit, dans deux cas identifiés, une sphère élevée de décision politique, comme l'octroi de la proxénie, ce qui indique un engagement direct de la part d'Athènes. Nous croyons que la mesure pouvait trouver son accomplissement seulement après la ratification officielle à Athènes. Dans 3 autres occasions, datant du 3e et du 2e siècle avant, nous savons que l'île a fait recours à la sanction de la métropole opposant Kyriae Odoreae Osin, afin que les mesures soient mises en œuvre par Athènes aussi. Il y a là la mémoire des ambassadeurs que la ville d'Héphaestia envoya à Athènes pour faire approuver dans un cas la citoyenneté et dans les 2 autres cas les mégistai timai, les honneurs les plus élevés, déjà délibérés dans l'île, mais ratifiés à Athènes. Dans l'un d'eux, la ratification officielle d'Athènes se lit comme suit: Kai einai autois curias tas doreas, tas dedomenas, hypotudemu tune en Héphaestiai. Soit pour eux valables les résolutions honoraires déjà ratifiées par le peuple d'Héphaestia. Cette documentation illustre les formes d'autonomie, vous avez vu, d'autonomie, mais d'autre part aussi de dépendance de la cléruquie envers sa patrie d'origine. Deux plaques héliastiques en bronze, bien que fragmentaires, posent aussi la question de savoir si les procédures judiciaires et le tirage au sort des juges étaient prévus à Lemnos. Je le crois, mais la mobilité des clérouques allant et en revenant d'Athènes pourrait suggérer également bien un service effectué dans la patrie par des clérouques qui ont après choisi de vivre dans les territoires d'outre-mer de la polis. Le panorama des magistratures est très articulé. Le système de tatation est certainement dépendant des archontes. On connaît 15 noms à reconnaître certainement comme magistrats locaux et non comme fonctionnaires d'Athènes. Dans des contextes particuliers, il y a aussi la tatation par le prêtre. Nous rappelons en outre les épimés, les tailles, c'est un pour chacune des 2 villes qui ont des tâches importantes affectant parfois le contrôle de terres publiques. Un nombre articulé de stratèges, un Hippacre, qu'on le connaît très bien par l'aristotélicienne Athénaïum Politée, il y a un Kerux, je rappelle le Kerux, c'est-à-dire le héros, hein, qui est la voix de la communauté politique et qui, dans le IVe siècle, est responsable de proclamer les mérites de bienfaiteurs dans les concours tragiques des Dionysiens. On ne peut enfin oublier la charge de Boones, à savoir le délégué officiel pour acheter les victimes sacrées et pour en revendre les peaux. Cette présence montre clairement, que dans un document précieux de l'âge de Lycurgue, montre la proximité de la cléruquie à sa patrie d'origine, d'un point de vue institutionnel et religieux, puisque la charge de Boones semble limitée à Athènes dans un court laps de temps, de considérable importance sociale, elle est comparable à l'engagement financier nécessaire pour une liturgie. Les tribus. Les traditionnelles tribus attiques présentes à Lemnos jouissent d'une capacité économique et sont en mesure de prêter de l'argent. En échange d'une procédure appelée prasis epulus, et j'ai déjà appelé ça, c'est-à-dire vente avec faculté de rachat. Mais ce que nous étonne, c'est la présence sur les bornes de gage de nombreuses associations fondées sur un lien cultuel ou simplement social. Je parle des orgeones, je parle des erenistai, hein, avec des buts souvent d'aide sociale. Mais parmi tous les groupes, sans aucun doute, celle des homocutroi est l'association la plus singulière qui réunit ceux qui partagent le même pot. Adepte d'un culte sans doute kabyrique qui célèbre le rite autour d'une koiné estilasis, dont le pot. Hein, je tiens à souligner que les camarades de pot ont accordé un prêt de seulement, j'indique le lieu de, où on peut lire, on l'a très, très mal lu avant, homocutrois, hein, c'est en datif. Je tiens à souligner qu'ils ont accordé un prêt de seulement 50 drachmes, ce qui semble être le crédit le plus bas en absolu de cette série documentaire, attesté seulement une fois encore dans un Horos d'Athènes. Donc, à Lemnos, nous avons la plus haute indication, le plus haut montant et le plus bas, en absolu. Le mont cultuel comprend beaucoup de divinités. J'ai déjà rappelé Artemis, hein, qui a été objet d'un culte à la première arrivée des Athéniens. Mais on ne peut pas oublier Héphaïstos, hein, éponyme de l'une des villes de l'île, largement représentée dans la littérature, en relation avec le sol volcanique de l'île et les traditions métallurgiques de la population pré-hellénique des Sinties. À côté, nous avons les dieux kabyres. Voilà, les dieux kabyres, les mégaloi, tseoi, qui préservent les traits d'anciennes divinités pré-helléniques, déjà objets de la vénération des Tyréniens. Encore un exemple ici. Les voilà, on peut lire la dédicace aux dieux mégaloi, tseoi dans cette ligne. Et ces dieux étaient vénérés sur le promontoire de Chlos, et on l'a vu, qui remplace le sanctuaire tyrénien avec 50 ans seulement de vide. Il y a un vide là de documentation au milieu du 5e siècle. Et les étapes ultérieures du sanctuaire, on l'a vu avant, se poursuivent pendant la période hellénistique et romaine. Nous avons dans la documentation des inscriptions aussi la ecclesia ton tetelesmenon, c'est-à-dire l'assemblée des initiés. Hein, se réunissait dans le cabirium. Il est attesté pendant tout l'âge hellénistique, etc. Hein. Bien que sa définition reste incertaine dans sa composition, elle est sans doute en rapport avec le démos de Héphaïstia, par les proèdres duquel elle est présidée. L'ecclésia a aussi un grammateus, un secrétaire, c'est-à-dire aussi un trésorier des biens sacrés, un tamias ton hieron crematon, hein, qui a parmi ses devoirs la reddition des comptes. Le sanctuaire du Cabirion est objet de culte aussi par les habitants de toute l'île, pas seulement des Festia, y compris les citoyens de l'autre ville qui s'est Myrine. Dans le IIIe siècle, ils envoient chaque année, pendant les festivités Oraya, des ambassadeurs sacrés, ils sont les Tseoroi, désignés par l'Assemblée pour traiter les sacrifices et pour décorer le sanctuaire. On connaît aussi des Hieropoioi eistokabirion, c'est-à-dire les préposés aux rites sacrés envoyés par la ville d'Héphaïstia. Hein. Le nombre des Hieropoioi, cependant, est étonnamment élevé, atteignant pour la seule partie conservée d'une inscription, le nombre au moins de 38 noms, avec nombreux représentants par chaque tribu. Il dépasse de loin le nombre attendu de 10. Le contexte ainsi que leur représentation numérique nous témoignent qu'ils ne sont pas Athéniens qui viennent d'Athènes, mais ils sont Athéniens de la ville voisine de Héphaïstia. Dans les pratiques cultuelles, ils coopèrent avec le prêtre du sanctuaire et le devin, le mantis, dont la citation ouvre des stimulantes perspectives sur une capacité prophétique et oraculaire du culte kabirique. Dans le sanctuaire, nous voyons au travail aussi les hieromnémones, ceux qui garantissent la mémoire des choses sacrées. On les trouve dans un document épigraphique qui a attiré l'attention des étudiants, même pour la datation trop élevée proposée jusqu'ici, on le verra dans le séminaire. Leur mandat est d'un an, leurs compétences concernent la gestion et l'archivage des activités du sanctuaire et ils ont été sélectionnés pour représenter toutes les tribus. Le paysage institutionnel d'une cléruquie type a été maintenant, je crois, suffisamment montré, je crois, dans cet exposé. Mais reste à approfondir ce qui, peut-être à mon jugement, l'aspect le plus séduisant d'un travail sur le terrain. C'est lui qui mène à l'homme ancien commun, et c'est le protagoniste des petits ou des très petits événements de la vie quotidienne. Eh bien, ce sont les bornes de gage, avant tout, qui nous permettent d'observer de plus près la population insulaire et d'explorer les mécanismes par lesquels les cléroi, les morceaux de terrain, pouvaient être aliénés en tant que bien gagés. Ce qui émerge est un fresque complexe, datable entre le IVe et le IIIe siècle avant, qui renforce l'image déjà proposée par Finlay, selon laquelle les créanciers sont membres souvent de familles socialement élevées, parfois appartenant à la classe liturgique, ou impliqués de diverses façons en affaires économiques ou en fonctions publiques. Un prêt, on le sait, pouvait être contracté pour des fins de représentation sociale, à titre d'exemple, comme à Lemnos, pour célébrer les funérailles d'un membre de la famille, de la même famille. Le microcosme d'individus que cette classe documentaire nous donne est rempli non seulement par les créanciers de l'emprunt, mais aussi par les garants des transactions économiques chargés de conserver les textes des accords et qui jouissent d'un crédit personnel chez les deux partenaires. Et lorsqu'on compare les grands décrets du Kabirion, tant de 4e que de 3e siècle avant, la prosopographie nous montre encore une fois le rang liturgique de certains caractères comme de sumproedroi, comme le promoteur d'un décret, comme enfin un hieropoios. Les comparaisons indiquent d'autrefois des familles avec des branches très répandues et bien témoignées à Athènes, dont on ne peut pas parler ici en détail. Si nous pouvons reconstruire plusieurs générations d'une même famille, nous voyons alors qu'entre père et fils, il y a un similaire engagement civil. Au IVe siècle, un père est hieromnemon et son fils est sumproedros. Autour de la moitié du Ier siècle, un père est héros sacré dans le Kabirion et le fils est l'un des 5 ambassadeurs qui, dans la seconde moitié du siècle, se rendent à Athènes pour régler un conflit territorial. Nous observons également la progression de carrière d'un particulier qui, promoteur d'un décret au milieu du IVe siècle, devient une génération plus tard honoré pour son service en tant que tamias ton hieron crematon, service joué avec passion et zèle. Ce n'est pas tout. Les mêmes familles pouvaient rester, et ça c'était intéressant, pendant plusieurs générations sur le même corion, sur la même porceau de terrain, et dans la même ferme, tant que la documentation des periboloi funéraires a abondamment prouvé, mais dans certains cas, c'est l'épigraphie qui nous témoigne avec certitude la résidence de longue durée des clérucs. Nous rappelons en particulier Théophilos Alaieus, hieropoios dans la seconde moitié du IIIe siècle, mais, et là voilà le document épigraphique, hein, mais dont la famille a résidé sur l'île déjà avant 370-369. Cette année-là, en effet, un terrain, un corion, appartenant à un fils de Théophilos Alaieus, a été confisqué et vendu par les poletai, les vendeurs publics. Hein. Le terrain était cultivé avec des rangées de vignes qui sont décrites comme rapprochées les unes aux autres, et comprenait aussi des espaces d'habitation et des propriétés périphériques et escatia. L'ensemble est défini par des références cadastrales détaillées et la région est appelée Omphalia Eano, c'est-à-dire Omphalia supérieure. Un second individu, Hierocles, fils de Lysimaque et Oenumeus, est présent dans une liste athénienne de clérucs qui, dans la première moitié du IVe siècle, sont prêts à partir d'Athènes pour Héphaïstie. Et là, voilà, c'est un document qui est conservé à Athènes dans le musée épigraphique. Mais un descendant de cet ancien cléruc est toujours dans l'île, encore vers le milieu du Ier siècle avant Jésus-Christ, et nous le connaissons parce qu'il est patron d'esclaves libérés dans le Kabirion, et on voit là-bas l'inscription. On a parlé de coria, de terrain et de propriétés agricoles. Nous pourrions ici ouvrir une longue discussion, et très prenante, hein, sur la tentation récurrente des clérouques à étendre leurs exploitations au détriment de terres voisines, surtout si terres publiques ou terres sacrées ou terres pas attribuées. Au moment où le contrôle d'Athènes se relâche pour des difficultés internes ou externes, les clérouques se répandent rapidement, de sorte que le syntagme amphisbetein tes ges, c'est-à-dire se disputer la terre, revient maintes fois dans les documents épigraphiques, en particulier de matrice attique. Athènes, en effet, remet de l'ordre dans les propriétés privées quand sa main sévère s'étend de nouveau sur l'île, en punissant les excès et les abus mis en place par les clérouques. Il serait utile de souligner par ailleurs un phénomène consistant qui j'aimerais dénommer des clérouques de retour, c'est-à-dire ceux qui ont laissé leurs traces dans l'épigraphie funéraire attique dès le 5e siècle et à suivre, où ils se déclarent toutefois lemniens ou bien provenant d'une de deux villes de Lemnos. C'est un phénomène de mobilité sociale qui a également marqué la clérouquie de Samos et de Imbros, avec des exemples importants déjà reconnus dans le débat critique. Toujours sous le thème de la mobilité, les familles des clérouques habituées à vivre dans les possessions outre-mer d'Athènes pouvaient également être présentes dans des clérouquies et laisser mémoire de soi entre le IIe et le Ier siècle avant, par exemple à Lemnos et à Delos, donc mobilité aussi parmi les clérouquies. Mais le microcosme lemnien, tout en clonant l'Attique contemporaine, se reconnaissait aussi dans les jours fériés, quand tout le monde se rassemblait pour célébrer les fêtes Hephaestia ou Oraya, celles-ci dans l'espace du Cabirion, où il nous faut imaginer les sacrifices rituels et le partage des viandes, comme indiqué aussi par la charge de bones, de vittimaires. Nous apprenons qu'on organisait du IVe siècle jusqu'à l'âge romain des concours tragiques avec des chorégies qui étaient célébrées lors des Dionysias. Cet événement festif fournit habituellement l'occasion de la proclamation des mérites des bienfaiteurs qui avaient été déjà honorés par un décret de la communauté politique. Le théâtre de la ville de Hephaestia, sur le venteux promontoire donnant sur le golfe de Pournias, qui a été récemment fouillé par les Phoriens grecs, était probablement le cadre monumental des événements que je viens de mentionner. Ici, à la structure en pierre, en fonction dans le IVe siècle et dans l'âge hellénistique, préexistait une structure en bois qui marquait la continuité de la présence athénienne sur l'île en remontant tout droit jusqu'au Ve siècle. Nous devons aussi imaginer, dans ces lieux de fréquentation publique, mêlés aux citoyens d'Athènes, des étrangers ou bien des métèques, dont l'écho se préserve dans la tradition épigraphique, nous y trouvons un banquier, un trapezites, dans la première moitié du IIIe siècle, qui a prêté 200 drachmes pour les funérailles de Edéia, c'est une jeune fille, en échange d'une caution hypothécaire. Ne pouvant pas légalement recevoir une garantie juridique fondée sur la propriété foncière, puisqu'interdit à un non-citoyen de posséder des biens immobiliers, il est accompagné dans la mémoire épigraphique par un citoyen athénien en fonction d'homme de paille. Les lieux d'origine des métèques sont avant tout les pays de frontières, tels que les sites de Chalcidique et de Thrace. Le Beaune, déjà évoqué, est un metumnaios de Lesbos. L'époque hellénistique romaine marque aussi la présence d'un couple de métèques du pont Euxin, d'une femme d'Alexandrie, peut-être la femme d'un clérouc, d'un individu ionique de la ville de Figeila et d'une petite famille de Smyrne. Mais un phénomène vraiment singulier est signalé, en outre, par la présence d'esclaves sur l'île, esclaves libérés, apeleutheroi, que nous pouvons estimer sur la base des inscriptions affichées au Cabirion et qui ont été étudiées tout récemment par une étudiante à moi qui s'appelle Francesca Rocca. Les manumissore, c'est-à-dire les maîtres qui donnent la liberté, sont Athéniens de Lemnos, appartenant à l'élite de l'île, qui libère. Vous avez des aperçus sur le flanc, sur le derrière. La pierre est complètement écrite. Vous le voyez partout. Partout, il y a des lettres. Et voilà, c'est extraordinaire, la pierre. Ces maîtres qui appartiennent à l'élite de l'île libèrent leurs esclaves autour de la moitié du 1er siècle avant. On pourra apprécier l'extraordinaire grande pierre des enfrachissements. La présence de l'esclavage est justifiée par son utilisation dans les travaux agricoles ou peut-être même dans l'extraction de la fameuse ocre rouge, la mienne, au pouvoir médicamenteux et soumise à monopole. Dans un cas, un hierocérux, un héros sacré, pour sanctionner officiellement l'abandon de la servitude, est chargé de stélographein, c'est-à-dire d'écrire sur pierre pour informer la communauté, inscrire les noms des nouveaux affranchis dans le cadre des fêtes Oraya. En résumé, la documentation épigraphique de Lemnos certifie que l'île tourna à la façon d'un satellite autour de sa ville-mère, avec qui elle partagea les grandes coordonnées historiques. Le va-et-vient ininterrompu des ambassadeurs entretint ses clérouki, sanctionnés à maintes reprises à l'âge classique hellénistique, à contribuer à maintenir ensemble la terre à l'intérieur des frontières avec la terre à l'extérieur, dans un échange de rapports qui a vu une dépendance incontestée des territoires d'outre-mer par rapport à la patrie d'origine. Le privilège d'être des citoyens d'Athènes dans une clériquie n'est jamais séparé de l'acceptation d'une sévère organisation territoriale, comme l'extraordinaire loi sur le blé des îles publiée par Straud nous a bien montré. Mais les clérouques, toutefois, s'apercevaient d'appartenir à deux pays, séparés géographiquement, mais absolument pas opposés. Le cas de Dionysios Coluteus, ce propriétaire d'un important péribolos funéraire dans le céramique d'Athènes, nous fournit une séduisante clé de lecture. Il était probablement cousin de l'orateur Hyperide. Fut également clérouque à Samos, où il détenait le rôle de Tamias de trésorier en 346-5 avant. Mais il revint à Athènes, où il fut enterré. Sans oublier son passé, comme a très bien montré tout récemment Daniela Marchiani. Un épigramme gravé sur la base de son tombeau à Athènes décrit les sentiments partagés par le clérouque, reparti également entre Athènes et ses possessions extraterritoriales. On lit exactement de patrie, dissai patrides, tes mères, pour ta grande sagesse, poles eine kasophrosunes. L'une, la patrie, qui est par la force de ta naissance, emen fusei, mais l'autre, c'est la patrie par la force du droit et des nomoisin. Bon, j'ai terminé, j'espère dans l'heure, et je vous remercie beaucoup. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.